Bienvenue à notre conférence hebdomadaire de tous les mercredis. Bonjour à nos auditeurs qui nous suivent sur Radio Okapi ou qui nous suivent sur Internet. La conférence de ce jour sera animée pour l'équipe pays, pilier développement. Nous avons Florence Marshall. Pour le pilier humanitaire, nous avons Sylvestre Moudingaï. Pour les questions sécuritaires et humanitaires, nous avons le lieutenant-colonel Félix Bass. Je suis Madnoch Mounoubaï. Concernant les activités des responsables de la MONUSCO, suite au retrait du M23 le 1er décembre et la remise en place de la police nationale congolaise, quelques jours auparavant, le représentant spécial adjoint par intérim du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé de l'état de droit, Abdallah Wafi, a accompagné une forte délégation composée des responsables des sections pénitentiaires, droits de l'homme, protection de l'enfant et appui à la justice en visite à Goma. La délégation a séjourné dans cette ville du mardi 4 au samedi 8 décembre dans le cadre de l'évaluation de la situation sécuritaire et de la remise en place de la chaîne pénale. Au cours de cette visite, Abdallah Wafi a eu des séances de travail avec l'ensemble des acteurs intervenant en amont dans la chaîne pénale, c'est-à-dire la police, les responsables militaires, les autorités locales, les humanitaires, les ONG et la presse internationale. Au cours des différents échanges, le représentant spécial adjoint par intérim a exhorté les uns et les autres à travailler en synergie afin de relever le double défi humanitaire et sécuritaire. Sur les composantes de la MONUSCO, nous avons seulement une activité, celle des droits de l'homme. Le 6 décembre 2012, la proposition de loi organique instituant la Commission nationale des droits de l'homme en RDC a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale après avoir été entérinée par le Sénat le 5 décembre. La proposition de loi doit encore être promulguée par le président de la République. Étant donné qu'il s'agit d'une loi organique, ce dernier devra la transférer à la Cour constitutionnelle pour un contrôle de constitutionnalité avant sa promulgation. Le 10 décembre dernier, le Bureau Congé des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé une série d'activités dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, marquant ainsi le 64e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le thème cette année est l'inclusion et le droit de participer à la vie publique. Sans plus tarder, je passe la parole à Florence Marshall.
Merci Mounoubaï, bonjour à tous. Comment se mobiliser pour résoudre les problèmes liés au VIH-SIDA et aux inégalités de genre dans les communautés rurales? La question était au cœur d'une journée portes ouvertes organisée la semaine dernière dans le territoire de Béni par la FAO en partenariat avec Hope in Action. Plus de 200 femmes victimes de violences sexuelles, des orphelins et autres enfants vulnérables, bénéficiaires des écoles pratiques d'agriculture et de vie, ont partagé leurs expériences et expliqué comment l'approche de ces écoles, qui à la fois transmettent un savoir-faire agricole et inculquent des aptitudes à la vie, leur a permis d'améliorer durablement leurs moyens d'existence et d'adopter des attitudes progressistes, notamment en matière d'égalité entre les sexes. Cette activité, qui s'inscrit dans le cadre du projet régional Adresser la problématique du VIH et des inégalités de genre par une réponse de sécurité alimentaire et de nutrition en Afrique centrale et de l'Est, sur un financement de la Suède, va se poursuivre avec la tenue, mais cette fois-ci à Bukavu, le 20 décembre prochain, d'une seconde journée portes ouvertes. Depuis 2011, la FAO a mis en place 32 écoles pratiques d'agriculture et de vie dans les Kivus. C'est une méthodologie simple qui enseigne les techniques d'agriculture aux enfants et aux jeunes gens et adultes vulnérables, afin qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs propres besoins, l'un des objectifs étant de contribuer à atténuer les effets du VIH-SIDA sur la sécurité alimentaire, le système nutritionnel, l'agriculture et les moyens d'existence en milieu rural. Je vous remercie.
Merci. Je passe la parole à Sylvestre Moudingaï pour la situation humanitaire.
Bonjour à tous. Plus de 240 000 élèves n'ont pas connu une scolarité normale depuis avril en raison des conflits. Ces chiffres sont donnés par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Dans les provinces du Kivu, quelques 600 écoles ont subi les conséquences de ces conflits. notamment avec l'occupation des bâtiments par des militaires, des hommes armés ou encore des personnes déplacées. Dans la majorité de ces écoles, cette occupation s'est soldée par le pillage, la détérioration ou la destruction du mobilier scolaire. Les manuels et les bancs scolaires ont souvent été utilisés comme bois de chauffage. Certaines écoles sont en train de reprendre leurs activités. L'UNICEF, via le ministère de l'Éducation et ses partenaires, va distribuer des kits scolaires en faveur de 80 000 élèves d'ici la fin de l'année. Et pour couvrir tous les besoins en matière de l'éducation, l'UNICEF vient de lancer un appel de 6 millions de dollars américains. Dans la province orientale, plus de 1200 cas de rougeole ont été pris en charge par Médecins sans frontières depuis le 5 octobre 2012 dans la zone de santé de Yaleko, dans le territoire d'Opala. Les enfants, dont 300 serrés morts au cours de 10 dernières semaines, sont les premières victimes de cette épidémie. En réponse, MSF a mené une campagne de vaccination, vaccinant quelque 58 000 enfants de 6 mois à 15 ans. D'autres cas de rougeole sont rapportés dans les zones de santé de Ganga Dingila et Bouta, dans le Bazouélé, où MSF a pris en charge 800 patients en 3 semaines. Des campagnes de vaccination visant les personnes de 6 mois à 15 mois sont en cours de préparation dans ces deux zones de santé, mais très peu d'acteurs sont impliqués dans la riposte. 20 zones de santé en province orientale font face à une épidémie active de rougeole. Les dernières campagnes de vaccination qui étaient prévues dans ces zones n'ont pas pu avoir lieu en raison de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus et Ebola, dont la fin a été déclarée le 26 novembre dernier. Le coordonnateur de l'action humanitaire, M. Moustapha Soumaré, a visité le 8 décembre dernier le camp de Mugunga 3, la première visite humanitaire de haut niveau après la réouverture de l'aéroport de Goma 2 jours auparavant. À la tête d'une délégation des agences humanitaires des Nations Unies, M. Soumaré a échangé avec les personnes déplacées et les organisations humanitaires sur l'aide en cours et les défis qui persistent, notamment en termes de protection des populations civiles. Cette visite est intervenue quelques jours après le pillage du camp par des hommes armés. 24 heures après la visite, ce sont les habitants vivant à proximité du camp de fer, les frais de l'insécurité qui sévit dans la région de Goma. Ainsi, les 9 et 10 décembre, une poignée de maisons a été agressée par des hommes armés. Malgré l'accalmie, la situation sécuritaire demeure précaire. C'est dans ce climat que les travailleurs humanitaires profitent de l'accalmie pour apporter plus d'aide aux personnes touchées. M. Soumaré a effectué sa visite en y acheminant un cargo de lait thérapeutique et de médicaments. Et pour terminer cette annonce, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, avec quelques agences humanitaires du système des Nations Unies, organise demain à 13h45 à Lausonia un café de presse qui va porter sur la situation humanitaire dans le Nord Kivu. Voilà.
Merci, M. Moudinga. Je passe la parole maintenant au lieutenant-colonel Félix Bass.
Merci, M. le porte-parole, et bonjour à tous. Pour la situation sécuritaire, il faut noter qu'une accalmie quelque peu rassurante a été observée la semaine dernière à l'ouest de la République démocratique du Congo, où aucun incident significatif n'a été rapporté. En province orientale, l'environnement sécuritaire est jugé instable, voire imprévisible, particulièrement dans la région de Douro, Païka et Nambia, où une recrudescence d'activité des groupes armés a été observée durant la semaine écoulée. À cet effet, le bataillon marocain de la force de la MONUSCO a déployé un poste opérationnel à Païka dans le but d'évaluer la situation sécuritaire, contrôler la zone et protéger les populations civiles. L'opération conjointe MONUSCO-FRDC Bienvenue à la paix continue d'être menée dans la région de Dungu normalement. En Ituri, la force de la MONUSCO mène des patrouilles de sensibilisation dans la ville de Bounia afin de prévenir toute manifestation susceptible de compromettre la sécurité des populations locales ainsi que celle du personnel des Nations Unies. Du 8 au 10 décembre 2012, la force de la MONUSCO a déployé un poste opérationnel dans la localité de Mombasa dans le but de rassurer et protéger les populations civiles suite à l'incursion d'éléments Maïmaï dans les zones minières situées le long de l'axe Mayano-Tetouri à 41 km au sud de Mombasa, durant laquelle des pillages, tueries et actes de banditisme avaient été rapportés. En dépit du retrait du M23 de la ville de Goma et de la localité de Saké, la situation sécuritaire demeure tendue au nord Kivu. Les rapports ont signalé la semaine dernière que les éléments du M23 ne se sont pas retirés à 20 km de Goma, conformément aux accords de Kampala, mais plutôt sur les collines de Munigi, Akibati et Akibumba. La force de la MONUSCO poursuit son mandat de protection des populations civiles et assure également la protection du personnel et des installations des Nations Unies. Dans le cadre de l'opération White Awake, Réveil Total, le plan de protection interne de la ville de Goma a été activé et les forces de réaction rapide de la MONUSCO patrouillent sans relâche dans la capitale provinciale, particulièrement autour des sites importants, afin de prévenir et d'interdire tout incident négatif. L'observation aérienne se poursuit aussi dans la conduite de l'opération Blue Eagle, matérialisée par les patrouilles de reconnaissance aérienne de longue portée au-dessus de plusieurs localités, notamment Goma et environ, dans le but d'évaluer la situation sécuritaire et dissuader les activités des groupes armés. Le 3 décembre, la force de la MONUSCO a appréhendé 6 éléments du M23 à l'aéroport de Goma et les a remis au mécanisme conjoint de vérification pour leur prise en compte. Le même jour, les chefs d'état-major des armées de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda se sont réunis à Goma en vue d'examiner les voies et moyens de mise en œuvre des décisions contenues dans les accords de Kampala. Le 5 décembre, les vols civils et militaires de la MONUSCO en provenance ou à destination de l'aéroport de Goma ont repris sans obstacle. Le 7 décembre, plusieurs habitants de Kanyarushina, Kibati et Mutaro ont fui vers Goma à cause de l'insécurité provoquée par la présence massive d'éléments du M23 positionnés sur les collines de Munigi et l'occupation de leurs maisons par les mutins. Ces rebelles perçoivent également des taxes auprès des véhicules et motocyclettes circulant sur l'axe Goma-Munigi. À la même période, des hommes armés, surpris en pleine tentative de cambriolage dans les installations de la société Congo-Chine Telecom CCT, ont ouvert le feu sur le docteur Komlan des Nations Unies, dont la résidence jouxte cette entreprise. Blessé au visage par les éclats de verre du pare-brise, il a été immédiatement évacué vers l'hôpital de niveau 3 de Goma. Sa vie est hors de danger. Toutefois, les malfrats ont emporté $3,000 US de la CCT. Le 10 décembre, les troupes du service du génie sud-africain de la MONUSCO ont lancé l'opération Formidable, en renforçant les mesures de sécurité et les lignes de défense autour du périmètre de l'aéroport de Goma. Au chapitre des redditions dans cette province, le 9 décembre 2012, deux enfants associés aux groupes armés âgés respectivement de 15 et 17 ans, recrutés en avril 2012 à Mushaki, en territoire de Masisi, se sont rendus à la base de la MONUSCO de Munigi et remis à la section de protection de l'enfant de la MONUSCO pour leur prise en compte. Le 10 décembre, un autre rebelle du M23 s'est rendu avec armes et munitions au poste opérationnel temporaire de la MONUSCO de Rogari. Quoique volatile et imprévisible au sud Kivu, la situation sécuritaire est restée sous contrôle de la force de la MONUSCO et des FRDC durant la semaine écoulée. L'opération conjointe MONUSCO-FRDC, dénommée Djenga Usalama ou Consolider la paix, se poursuit normalement et continue de bénéficier du soutien du 2e bataillon pakistanais de la MONUSCO, qui a déployé à ce jour un poste de commandement conjoint, 3 postes de commandement avancés et 23 postes opérationnels à travers la province. Quant à l'opération Tahazari, alerte, elle est menée conjointement par la MONUSCO et les FRDC au nord, au sud et à l'est du territoire de Fizi. Elle continue aussi d'exercer la pression sur les groupes armés, notamment les FDLR et les Maïma Yakutumba, avec le soutien actif du 3e bataillon pakistanais, qui a lui aussi déployé à ce jour un poste de commandement conjoint, 3 postes de commandement avancés et 37 postes opérationnels en vue de soutenir cette opération. La compagnie uruguayenne de patrouille navale de la MONUSCO, URPAC, mène sur le lac Kivu des patrouilles intensives dans le but de contrôler les voies d'accès menant à la province du Sud Kivu. Le 8 décembre, le premier bataillon pakistanais de la MONUSCO a gracieusement distribué des denrées alimentaires et des vêtements à 1275 déplacés du camp Sayou, situé à 8 km de Bukavu. Ces marques de générosité ont été fortement appréciées par les bénéficiaires. D'autres denrées alimentaires ont été distribuées le même jour à 298 familles déplacées des FRDC de la 8e région militaire au camp Nyamugini, située à 16 km au sud-est d'Addikivu. Au chapitre des reddition dans la province, les 3, 6, 8 et 9 décembre, deux combattants FDLR se sont rendus sans armes au poste opérationnel de la MONUSCO de Sangué et de Minova, tandis que le colonel Maïmaï Moukelengue, quant à lui, s'est rendu avec 4 éléments auprès des troupes FRDC à Baraka dans le territoire de Fidji. 86 autres éléments Maïmaï Mayele se sont aussi rendus aux troupes gouvernementales accompagnés de 11 membres de leur famille avec 50 armes AK-47 à Lusambu dans le territoire de Fidji. Au Katanga, l'environnement sécuritaire est demeuré relativement calme la semaine dernière et dans le secteur 2, elle est tout à fait calme pendant la période sous examen. Enfin, concernant les statistiques de nos patrouilles, nous avons mené 1289 patrouilles armées, donc 728 nocturnes, et fourni 40 escortes, pendant que nos observateurs militaires ont, quant à eux, fourni 333 autres patrouilles. Je vous remercie de votre attention.
Merci, mon colonel. Nous